Duval. Bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. De l'art de créer le suspense à gauche, Christiane Taubira envisage une candidature à la présidentielle. Pas une de plus, elle veut l'union, mais la gauche ne lui ouvre pas les bras en grand. C'est les vacances ce soir, il y a du monde devant les Barnum pour se faire tester ou dans les pharmacies pour acheter des autotests. Jean Castex détaillera dans moins d'une demi-heure les mesures décidées en Conseil de défense cet après-midi pour faire face aux variants Omicron. Dans l'actualité encore, dernier jour de campagne au Chili avant le second tour de la présidentielle, crucial dimanche. Les salariés de la grande distribution en grève pour des hausses de salaire, Auchan aujourd'hui avant Carrefour. Et puis les Françaises viennent de se qualifier pour la finale du mondial de hand en Espagne face au Danemark. Ça vaut bien un petit crochet par chez vous, Xavier, qui suivait le match.
Incroyable, Hélène, elles sont revenues du diable. Vos Verts, elles ont été dominées tout le match pour finalement revenir dans les dernières minutes et passer devant et se qualifier pour la finale mondiale et tenter de le doubler, championne olympique et pourquoi pas championne du monde.
Un très beau match sur lequel on va revenir tout à l'heure avec vous, Xavier Monferrand. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, comment raconter des histoires aux enfants? Ne me dites pas, Hélène, que vous ne vous êtes jamais posé la question, je ne vous croirai pas. Il y a les livres, bien sûr, il y a aussi les podcasts. Et ce soir, on sera avec Laure Grand-Besançon, productrice du podcast Les Odyssées, avec Léonard Billot, qui lui produit Une histoire et au lit. On sera aussi avec un conteur, Marien Tillet. Tous trois vous diront comment faire pour raconter une histoire et même pour en inventer, Hélène. C'est une émission pour les petits et les grands ce soir, alors appelez le standard, le 01 45 24 7000.
France Inter. Et voici donc les cartes une nouvelle fois rebattues à gauche. Christiane Taubira envisage bel et bien une candidature à la présidentielle. Elle le dit dans un message vidéo aujourd'hui et prendra sa décision mi-janvier. Elle dit ne pas vouloir être une candidature de plus. Alors on se demande, bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Quel est son plan, quel est son agenda?
Ah ben, il commence dès demain son agenda à Christiane Taubira avec un déplacement à Saint-Denis au nord de Paris devant le marché de Noël d'abord pour parler des dispositifs mis en place pour les enfants des familles en difficulté. Puis, autour de la basilique, un symbole, explique son équipe. Il s'agit de parler de jeunesse, de pouvoir d'achat, mais aussi de renvoyer à l'histoire de France et ouvrir sur le futur les Jeux Olympiques et une ville en transformation qui concentre, explique l'un des proches de Christiane Taubira, toute une partie de la population rejetée aujourd'hui par l'extrême droite. Ensuite, il y aura des déplacements, des prises de parole jusqu'à la mi-janvier. C'est là que Christiane Taubira devrait se déclarer officiellement et totalement candidate en choisissant de participer au vote organisé par la primaire populaire et destiné à faire émerger une candidature de gauche. Dans l'intervalle, explique Christian Paul, ancien député et proche de la désormais nouvelle candidate, il va falloir convaincre tous les autres.
Il faut créer les conditions de la réunion des forces. Il faut préparer cette primaire. C'est la seule façon de réunir les forces. Elle ne sera pas une candidate de plus. Ça n'aurait aucun sens. La gauche et les écologistes se meurent aujourd'hui de leur division, de leur dispersion. Il ne s'agit pas d'en rajouter. Donc, évidemment, sans primaire, point de salut. Et c'est bien dans cette direction qu'elle a choisi de s'engager.
Et elle ne s'engage pas toute seule. Autour d'elle, une équipe est en train de se constituer. Olivia Fortin, adjointe au maire de Marseille. C'est Erwan Binet, le rapporteur de la loi sur le mariage pour tous. Et peut-être aussi, c'est ce que disent certains proches de Christiane Taubira ce soir, le retour de l'ancien socialiste Benoît Hamon.
Merci beaucoup pour ces premières explications. Antoine Gignot, comme Anne Hidalgo pour sa soudaine envie de primaire. C'est la photo d'une extrême droite à plus de 30% dans les sondages qui pousse Christiane Taubira à tenter un coup. Elle qui s'est déjà présentée à la présidentielle il y a 20 ans et qui avait été accusée avec ses 2% de vote d'avoir contribué à la chute de Lionel Jospin au profit du Front National. Pas une candidature de plus, donc promet-elle. Mais l'union de la gauche semble encore loin, car si Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg sont prêts à tenter la primaire, la candidate socialiste propose d'ailleurs de débattre à la télévision. Yannick Jadot est contre, et il l'a clairement fait savoir aujourd'hui, même s'il est sous pression dans son camp. Et Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, la réponse depuis la Martinique, c'est « laissez-moi tranquille ».
Moi, j'envisage d'y répondre le moment venu. Voilà, tu as fait parler, mais moi, je ne suis pas concerné. Enfin, il y a une élection dans 3 mois. Vous croyez qu'on a encore le temps de faire un congrès du PS? Je veux pas ni polémiquer, ni rajouter au ridicule de la situation. Parce que fondamentalement, la vieille gauche est mise dans une situation ridicule. C'est pas à moi d'en rajouter, parce que vous savez, derrière tout ça, il y a des tas de gens que ça désespère. que ça démoralisait à eux, je leur dis, écoutez, non, vous pouvez me faire confiance, je mérite votre confiance, voilà, déjà parce que je suis sérieux.
Jean-Luc Mélenchon avec Laurence Perron, le communiste Fabien Roussel, lui aussi maintient sa candidature. La candidature envisagée de Christiane Taubira, un mois donc pour se décider, c'est aussi un article à lire sur franceinter.fr.
Le Conseil de défense sanitaire vient de se terminer à l'Élysée.
Le variant Omicron met la pression sur le gouvernement. 310 cas sont recensés en France pour l'instant, mais c'est sûrement sous-estimé. Le variant est moins présent aussi chez nous que chez nos voisins, car les Français sont plus vaccinés. Il n'empêche, il est bien là. Il est très contagieux. Il faut donc s'y préparer. Mais comment ? Qu'est-ce qui est sur la table de ce Conseil de défense, Maxence Lambrecq ?
Le gouvernement a quatre leviers sur la table pour réussir à passer les fêtes. Le premier, comme toujours, la vaccination. Que les Français fassent vite leur troisième dose. Au lieu d'attendre 5 mois entre 2 injections, la durée pourrait être revue à 4 mois. Objectif, atteindre au moins 20 millions de rappels à Noël pour les enfants, les 5-11 ans. Pas d'annonce avant le milieu de la semaine prochaine. Avant les fêtes, vaccinez-vous et testez-vous. Ce sera le message. Le principal syndicat des pharmaciens vient d'apprendre que les autotests seront gratuits pour les personnes vaccinées entre le 20 décembre et le 2 janvier, à raison de 2 autotests par personne, de quoi limiter un peu les files d'attente pour les tests antigéniques. Le troisième levier, ce sont les jauges, avec au moins ce soir un appel à limiter les fêtes et le nombre de convives à table. Mais Emmanuel Macron n'a a priori pas envie de fixer une limite chiffrée, 5, 6, 7, ce devrait être un appel à la responsabilité. Reste à savoir si les bars et restaurants subiront eux une jauge stricte. Quatrième et dernier levier, les restrictions aux frontières. C'est déjà acté pour les Britanniques, mais la liste des pays et des contraintes peut s'allonger. Dans tous les cas, pas de couvre-feu comme l'an dernier et pas de grand catalogue de mesures puisque ce n'est pas une conférence de presse mais une simple déclaration sans question que Jean Castex prépare en ce moment à Matignon.
Voilà, les détails dans moins d'une demi-heure maintenant par le Premier ministre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera lui demain matin dans la matinale, invité à 8h20. On a compris que l'accès aux tests devrait être facilité. On a quelques questions au sujet des autotests. Ça va devenir le petit cadeau à offrir avant de trinquer. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Y a-t-il un vrai intérêt, une vraie fiabilité à ces autotests ?
Alors, les laboratoires et les pharmacies ont prévenu. Ils sont très sollicités en ce moment. Impossible de dépister 60 millions de Français pour les fêtes. Donc, oui, si vous ne pouvez pas faire un test PCR ou antigénique avec un professionnel de santé, l'autotest peut être une bonne solution alternative, surtout avant un repas en famille. L'autre avantage, notamment pour les enfants, c'est que l'autotest est un peu moins intrusif. Concrètement, c'est le même principe de base que le test antigénique, mais on n'est pas obligé d'aller farfouiller aussi loin au fond du nez. Environ 3 cm suffisent. En termes de fiabilité, ça varie en fonction des marques. Les autotests doivent être sensibles au moins à hauteur de 80%, mais tout dépend de la qualité du prélèvement. Nous ne sommes pas des professionnels, il y a donc un risque de faux négatif, d'autant que le produit est moins réactif pour les personnes asymptomatiques. Autre inconvénient, si le résultat est positif, il n'y a pas de dispositif de traçage. C'est la responsabilité de chacun de se rendre ensuite dans un labo pour effectuer un test PCR et s'isoler.
Alice Cachaner, merci à vous. Et le vaccin pour les enfants, les 5-11 ans, le Comité national d'éthique a donné son feu vert aujourd'hui, y posant toutefois plusieurs conditions. Il ne veut pas d'obligation, notamment partout en tout cas, le variant Omicron accélère les contaminations. Au Royaume-Uni, qui parle de raz-de-marée, nouveau record aujourd'hui, plus de 93 000 en 24 heures. Le Danemark décide de son côté de fermer cinéma, théâtre et salles de concert. Et puis la situation est plus que jamais bloquée en Guadeloupe, plus d'un mois après le début de la grève générale, contre l'obligation vaccinale des soignants. Le mouvement continue et est encore émaillé de violence, au point qu'une cinquantaine d'élus locaux, bonsoir Rémi Brancato,
bonsoir,
dénoncent dans un communiqué commun un climat de terreur.
Oui, ces élus locaux sont excédé après notamment le saccage de la maison d'un sénateur. Le maire du Lamentin, Jocelyn Sapotille, président de l'association des maires de Guadeloupe, pointe des violences particulièrement aux abords du CHU où les grévistes tiennent des barrages.
Plus de 150 voitures de soignants vaccinés et qui veulent travailler ont été vandalisées. Les pneus piqués. Beaucoup d'infirmiers ont la peur au ventre quand ils viennent travailler. C'est inacceptable.
Hier, les vitres du bureau du directeur ont été visées par des tirs de cailloux, tout comme des véhicules de service. Les grévistes, eux, démentent toute forme de violence. Rony Tillier, secrétaire de la CGTG au CHU.
C'est un mensonge de la part de ces élus. Il y a peut-être quelques échauffourées parce que il y a des collègues qui veulent monter avec leur voiture et ça peut créer quelques incidents. En tout cas, des agressions, des injures, des voitures saccagées. Nous, on n'a pas vu ça.
La direction de l'hôpital a déposé une quinzaine de plaintes depuis le début du mouvement en septembre et fait constater par huissier les dégradations. Certains accès sont bloqués, s'alarme le directeur général adjoint Cédric Zolessi.
Les prises en charge sont retardées et donc quand il s'agit de dialyse, ça peut mettre en jeu le pronostic vital. Quand les chimiothérapies ne sont pas réalisées, les patients cancéreux sont en danger. Mais il semblerait que ce ne soit pas pris en considération dans ce mouvement de grève.
Et il dénonce une dérive violente des opposants à l'obligation vaccinale qui, eux, n'entendent pas du tout stopper leur mouvement.
Et puis en bref, le Conseil national de l'Ordre des médecins fait appel du blâme infligé début décembre au professeur Raoult, souhaitant une sanction plus sévère pour celui qui a fait la promotion de l'hydroxychloroquine sans s'appuyer sur des données confirmées.
19h11 sur France Inter, la suite du journal d'Hélène Philly. La grande distribution se mobilise pour des hausses de salaire.
Chez Carrefour à partir de demain et Auchan aujourd'hui. En pleine négociation annuelle, les syndicats réclament une hausse générale des salaires d'au moins 5% pour récompenser ceux qui n'ont jamais cessé de travailler, même pendant les confinements, pour relever des grilles salariales souvent basses. Mobilisation à Cherbourg, Perpignan, Strasbourg ou Annecy. Gilles Martin est délégué syndical central CFDT.
On sait déjà qu'on perd du pouvoir d'achat avec 2,8% d'inflation et quand on nous propose des augmentations de salaire à 2,2%, ben le compte n'y est pas. On va rester avec un manque de pouvoir de vivre. Les premiers niveaux de salaire à Auchan vont se retrouver très rapidement en début d'année en dessous du niveau du SMIC puisque le niveau de l'inflation est tel qu'on ne va pas tenir compte de l'augmentation du SMIC qui aura lieu au mois de janvier. Donc, ce n'est pas du tout acceptable non plus. Ces salariés qui travaillent depuis 30 ans, parfois dans l'entreprise, et qui gagnent 1250 euros par mois, vous vous rendez compte, dans une entreprise qui dégage des dividendes records, la preuve, hein, puisque la famille se les octroie, c'est pas tant là que des salariés, au bout de 30 ans, gagnent 1250 euros.
Gilles Martin avec Caroline Félix pour les salaires et l'emploi. La CGT, Force ouvrière, FSU et Solidaire appellent par ailleurs à une journée de grève le 27 janvier prochain. Le procès des attentats du 13 novembre se met en pause quelques jours pour les fêtes. La Cour a bien besoin d'une respiration, a d'ailleurs reconnu le président, avant de conclure la 62e journée d'audience aujourd'hui. L'ancien patron de la DGSI, Patrick Calvar, était à la barre et il est surtout venu délivrer un message politique, Charlotte Piret.
Avec un message en particulier, sous forme de question certes, mais un message tout de même. Qu'est-ce qu'on veut ? Interroge l'ancien patron des services de renseignement intérieur à la barre. Plus de sécurité ? C'est possible avec plus de technologie, mais il faut qu'on accepte plus de restrictions de nos libertés. L'essentiel, du moins pour Patrick Calvar, est dit. Le reste est une sorte de bilan du travail de ses équipes, dont il tient à assurer les parties civiles de l'engagement total, de l'abnégation dans leur travail, même si je sais que les mots n'effacent jamais la douleur. Quant aux questions plus précises sur ce dossier du 13 novembre, le témoin n'en a généralement aucune idée ou l'ignore totalement, lui qui reconnaît même être tombé de l'armoire quand il a appris qu'Abdelhamid Abaoud, le coordonnateur des commandos du 13 novembre, se cachait dans un buisson d'Aubervilliers, lui que tout le monde croyait alors encore en Syrie. Face à cela, Patrick Calvar n'a pas de difficulté à admettre les ratés, les erreurs d'appréciation, dit-il. Tous ces attentats sont des échecs pour nos services, reconnaît-il encore. D'autres, similaires, pourraient même avoir lieu aujourd'hui, selon lui, sauf à se doter de moyens de contrôle des populations plus précis et à accepter, insiste-t-il, une restriction de certaines libertés. Son message du jour, donc.
Le procès reprendra le 4 janvier avec l'interrogatoire des accusés sur les faits. Deux nouvelles procédures judiciaires pour viol à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. 6 mois après le classement sans suite d'une enquête et le témoignage de plus de 20 femmes contre l'ex-présentateur star de TF1. Nouvelle enquête donc sur les accusations de viol par l'écrivaine Florence Porcel et enquête préliminaire après la plainte d'une femme qui accuse l'ex-présentateur de l'avoir violée lors du festival de Cannes de 1980. 85.
Ce week-end, d'une élection présidentielle qui peut faire basculer tout un pays.
Deuxième tour de scrutin au Chili, effectivement, 30 ans après le retour de la démocratie dans le pays, 2 ans après des manifestations historiques contre les inégalités et en pleine rédaction d'une nouvelle constitution qui pourrait bien remplacer le texte hérité de la dictature de Pinochet. L'ancien leader étudiant de gauche, Gabriel Boric, affronte le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast. Justine Fontaine était à son dernier meeting.
Pour la liberté du Chili, voici ce que crie cette femme au milieu de la foule dans le parc d'un quartier chic de Santiago. Un peu plus loin, Macarena, 57 ans, est sensible aux promesses d'ordre et de sécurité faites par José Antonio Kast. Comme d'autres personnes présentes ce soir, elle ne cache pas sa sympathie pour la dictature de Pinochet. Tant que le Chili existera, il ne sera jamais marxiste, crie la foule. Un thème repris sur scène par José Antonio Kast.
La seule chose que la gauche apporte, c'est la pauvreté. Une pauvreté qui a plongé le Venezuela, le Nicaragua et Cuba dans une telle situation que les gens fuient ces pays.
Celui qui est visé, c'est Gabriel Boric, le candidat de gauche, au programme social-démocrate, mais qui est allié au Parti communiste. Benjamin, 35 ans, est venu en famille. Il votera pour Kast, même s'il ne partage pas les opinions ultra-conservatrices et homophobes du candidat d'extrême droite.
Ce qui me convainc, c'est l'aspect économique. Le plus important, c'est que le communisme n'arrive pas au pouvoir ici.
José Antonio Kast a retiré de son programme les mesures les plus polémiques. Le scrutin s'annonce malgré tout particulièrement serré. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
En bref, Bruxelles ouvre une enquête sur la suppression des vols intérieurs en France en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Mesure phare de la récente loi climat, mais contestée par la filière du transport aérien. Puis Paris, de son côté, demande à Bruxelles d'ouvrir un contentieux pour que les licences sur les 73 licences de pêche qui manquent encore dans le conflit avec le Royaume-Uni. Allez, on retourne en Espagne à présent pour cette place en finale décrochée par les Française au mondial de handball après un final incroyable que vous avez suivi, Xavier Monferrand, face aux Danoises.
C'est exceptionnel. Vraiment, ces filles ont une bonne étoile au-dessus de la tête parce que autant de bons résultats depuis les Jeux de Rio en 2016, 7 présences en demi-finale sur 8 possibles, et cette fois ça va aller encore en finale comme il y a quelques mois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette fois les Françaises ont battu les Danoises, et franchement elles reviennent du diable vauvert parce que ce match, elles ne l'ont pas tenu à aucun moment, elles étaient toujours derrière, elles ont subi les Danoises qui ont été vraiment irréprochables pendant quasiment toute la partie, sauf les dernières minutes où les Françaises ont eu le mérite de s'accrocher, de ne jamais se laisser avoir, de ne jamais se laisser décrocher, et pour finalement égaliser et passer devant dans les derniers instants, garder ce petit but d'avance et l'emporter 23-22, un petit but qui fait toute la différence, ce qui produit des larmes du côté des Danoises qui y croyaient très très fort, et du côté des Françaises aussi qui, on le voyait tout à l'heure, les nerfs ont lâché pour certaines, qui n'y croyaient plus et qui ont eu le mérite de ne pas lâcher, de tenir jusqu'au bout. Et elles seront en finale de championnat du monde quelques mois seulement après les Jeux de Tokyo. Allez, pourquoi pas le doublé, la médaille d'or olympique et la médaille d'or mondiale.
Et contre la Norvège ou l'Espagne, eh bien on le saura ce soir, puisque c'est l'affiche de l'autre demi-finale. Merci à vous, Xavier Monferrand. Pour fêter ça, un peu de musique. C'est l'occasion d'ailleurs de réécouter un groupe qu'on n'avait pas entendu depuis des années, les Guinéens de Super Mama Jambo, se reforment et sont en France en ce moment pour le festival Africolor à Paris et dans sa région. Le groupe a accompagné l'histoire de son pays. Il n'avait pas joué en France depuis plus de 40 ans quand même, Mathieu Culeron.
À l'occasion du festival Africolor, Super Mama Jambo se reforme dans une version remaniée pour un concert exceptionnel. Formation emblématique de Guinée-Bissau, son chanteur Malade Mané rejoint le groupe dans les années 70, lui qui voulait devenir footballeur professionnel.
Un jour, on était là, il y a un collègue qui nous a dit « Mais pourquoi on ne fait pas un groupe de notre quartier ?» Et mon camarade qui était là m'a dit « Toi, tu aimes chanter, tu vas chanter. »« Commandante Tiga, contre sol nakai, pauvre Djoubi, pauvre Miskinya, pauvre Punta, comment qu'on a l'air sous ma cabral ?»
Les chansons du Super Mama Jambo deviennent vite les hymnes de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Le groupe tourne alors dans le monde entier.
C'est vrai, parce que quand on a pris l'indépendance, tout ce qu'on chantait, c'était de belles victoires. Parce que nous, on a eu notre indépendance en 1974. Donc, à l'époque, on ne parle pas de politique. On parle que de la guerre parce qu'il y avait la guerre. Pour moi, c'est comme une guérison.
Le collectif de Guinée-Bissau se retrouve au nouveau théâtre de Montreuil demain soir. Un moment d'émotion pour un groupe emblématique de l'Afrique de l'Ouest.
Et le festival Africolor, c'est jusqu'à mercredi prochain dans une bonne partie de la région parisienne de Fontenay-sous-Bois, Nanterre ou bien encore Créteil. Et avant de vous quitter, un grand merci à l'équipe qui était aux manettes des journaux cette semaine. Clément Berman, Florian Dorimini et Michel Bézikian.
Oh, et vous aussi, Hélène Philly, soyez remerciés. On vous souhaite un très bon week-end. Des nouvelles du temps.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Soleil et éclairci pour la majeure partie du pays demain.
Oui, la journée s'annonce globalement ensoleillée demain, mais il faudra parfois s'armer de patience pour retrouver un temps lumineux et un ciel dégagé à cause des nuages bas et des brouillards. On retrouvera ces grisailles matinales sur le bassin aquitain et entre la Normandie, l'intérieur de la Bretagne, le Poitou, le bassin parisien, le Berry et le Dauphiné jusqu'aux frontières du nord et du nord-est. Ces nuages bas se dissiperont progressivement pour un après-midi sous le soleil. Soleil qui s'imposera ailleurs d'ailleurs dès le lever du jour. En revanche, des grisailles resteront aussi tenaces, maintenant un ciel couvert l'après-midi. Midi entre les Hauts-de-France et le Grand Est et du Nord Auvergne au Lyonnais.
Et pour dimanche ?
Eh bien, les grisailles vont à nouveau envahir toute la moitié nord et le Lyonnais et la journée sera plutôt grise. Dans les plaines du sud-ouest, les grisailles seront seulement présentes le matin, l'après-midi étant bien ensoleillé. Sur le reste de la moitié sud, mais aussi le relief des Vosges et du Jura, ce sera encore le soleil qui dominera. Et puis un mot des températures, l'ambiance sera plutôt fraîche le matin, avec des gelées un peu plus nombreuses samedi et puis un peu plus fortes dimanche. Pour les maximales, peu d'évolution pour samedi, toujours 7 à 18 degrés avec quelques degrés de moins sous les grisailles persistantes. Pour dimanche, il fera 3 à 9 degrés sur la moitié nord et 9 à 17 degrés sur les régions du sud.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.